Deutsche Welle. Vue d'Allemagne. C'est au son du chauffard, instrument à cornes traditionnel, que la 28e marche des vivants a débuté. Organisée tous les ans depuis 1988, elle a rassemblé des dizaines de milliers de participants d'une cinquantaine de pays, des marcheurs qui ont rendu hommage aux victimes de l'Holocauste sur le site du plus grand complexe concentrationnaire construit durant la Seconde Guerre mondiale, Auschwitz-Birkenau. Parmi eux et parmi nous, Lars Schulmeister. Et puis le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, une fête qui permet de rapprocher les institutions européennes de leurs citoyens. Katia Beach nous expliquera pourquoi cette date est devenue le symbole de la construction européenne. Au micro, c'est Constance Zunkotze. Guten Tag, Shalom, soyez les bienvenus à l'écoute de ce magazine.
Ce n'est pas seulement la journée d'aujourd'hui qui est importante. Pour moi, chaque jour compte. À chaque fois que je viens ici, je rencontre de nouveaux jeunes à qui je peux raconter et transmettre mon histoire. Et c'est le plus important, que cela ne se reproduise plus jamais.
Edward Mosberg est venu avec sa petite-fille des États-Unis pour raconter son histoire, celle d'un survivant de l'Holocauste. Tous les deux participent à la Marche des Vivants, une marche de 3 km qui débute à l'entrée du camp d'Auschwitz et se termine à Birkenau, principal site d'extermination. Entre 1940 et le début de l'année 1945, l'Allemagne nazie a exterminé ici environ 1,1 million de personnes, dont 1 million de juifs de différents pays européens. C'est pour leur rendre hommage que Lars Schulmeister était là lui aussi. Le jeune homme de 22 ans effectue actuellement un volontariat au Centre international de rencontres pour la jeunesse à Oświęcim-Auschwitz, situé près de l'ancien camp de la mort nazie dans le sud de la Pologne.
Dieser Marsch als solcher, der war, muss ich allerdings sagen, ehrlich gesagt eher still.
La marche en tant que telle s'est déroulée de manière plutôt silencieuse. Les gens parlent entre eux, font beaucoup de photos, mais ils n'ont pas chanté ou dansé. J'étais relativement en amont de la marche et j'ai pu me rendre compte à quel point on était nombreux. C'est très impressionnant. Comme le discours de l'un des survivants à la fin. Il a d'abord remercié les gens d'être là et puis, de manière très personnelle, il a expliqué pourquoi ce qui s'est passé à l'époque était terrible. Il a raconté qu'il avait perdu une grande partie de sa famille durant l'Holocauste et on pouvait voir à quel point il était encore bouleversé. Je pense que les participants ont encore une fois pris conscience que tout cela a bel et bien existé, que l'on ne peut pas nier Auschwitz.
Ich fand das persönlich auf jeden Fall ein sehr starkes Zeichen. Ja, die Juden zeigen also, ihr seht ganz klar hin, ihr habt uns eben im Holocaust nicht.
J'ai trouvé l'expérience très forte. C'est une manière pour les Juifs de dire, regardez, regardez bien, nous sommes là, vous n'avez pas réussi à tous nous exterminer. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous sommes solidaires. Et une autre chose qui m'a impressionné, c'est le nombre de drapeaux israéliens. Comme pour dire, il n'y a pas seulement les Juifs, il y a aussi un État juif et notre objectif est qu'il reste fort.
Ich arbeite hier als Freiwilliger und natürlich auch in dem Bewusstsein Deutscher zu sein.
Je travaille en tant que bénévole et bien sûr en ayant conscience d'être allemand. Mais j'ai la chance de ne pas avoir de lien personnel direct avec ce lieu. Dans ma famille, personne n'a été victime ou criminel de l'Holocauste. Cela me permet de garder une certaine distance. Cela dit, j'ai voulu participer à la marche car je crois que c'est une façon de s'élever de manière générale contre le racisme et la xénophobie. Bien sûr, elle a été initiée par des juifs, mais entre-temps, beaucoup de gens qui ne sont pas juifs, moi par exemple, je suis chrétien, y participent pour montrer que l'on peut vivre ensemble de manière pacifique.
Diese message die da eben verbreitet wird gegen Rassismus und für ein friedliches Miteinanderleben.
C'était Lars Schulmeister, jeune volontaire allemand qui a participé le 5 mai dernier à la marche des vivants à Auschwitz. « Vu d'Allemagne, vous êtes bien sur les ondes de la Deutsche Welle. Depuis 1985, les pays de l'Union européenne célèbrent tous les 9 mai la Journée de l'Europe. Pourquoi cette date ? Parce que c'est le 9 mai 1950 que le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman, prononce le discours fondateur de la construction européenne, la célèbre Déclaration Schuman. Une allocution préparée par Jean Monnet. Robert Schuman et Jean Monnet sont aujourd'hui considérés comme deux des principaux architectes de l'unification européenne. Leur portrait avec Katia Beach.
Nous sommes le 9 mai 1950, il est environ 18h à Paris. Dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, un homme avance d'un pas décidé et annonce un destin inattendu pour l'Europe.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Cet humaniste visionnaire, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman.
Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
Dans la salle, plus d'une centaine de journalistes prennent la mesure de l'annonce choc. En pleine guerre froide et 5 ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Robert Schuman vient d'annoncer la réconciliation franco-allemande autour d'un projet de coopération économique. C'est la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Un projet aussi inattendu qu'ambitieux. Julie Kiefer est la directrice de la maison de Robert Schuman en Moselle.
Il faut se replonger un petit peu dans le contexte de l'époque et imaginer l'audace d'un tel projet. C'est vraiment tendre la main à l'Allemagne et vraiment la considérer comme un allié désormais, comme un partenaire, ce qui était totalement impensable pour bon nombre de Français à cette époque, donc en mai 1950.
Cette déclaration dite Schuman a en réalité été insufflée par un autre Européen engagé, le conseiller politique Jean Monnet. Pactisé avec l'ancien ennemi, c'était un projet de longue date.
Il faut vraiment reconnaître le rôle de Jean Monnet dans ce projet, puisque c'est à partir d'une note de Jean Monnet que Robert Schuman, en fin avril 1950, quand il rentrait dans sa demeure à Sichazel pour le week-end, a pris connaissance dans le bureau de sa maison de cette déclaration. Et c'est à Sichazel qu'il a, on va dire, écrit la première version de cette déclaration. La presse a été assez favorable, a été surprise bien entendu, puisque Schuman lui-même qualifiait ça de saut dans l'inconnu. Mais les retombées ont été très positives. Surtout en Allemagne, ce texte était vraiment une source d'espoir pour les Allemands qui appréciaient beaucoup l'idée d'égalité entre les deux pays. Les Allemands à cette époque ne voulaient plus la guerre et voyaient vraiment dans ce plan, on va dire, la certitude que désormais ils pourraient vivre sur un continent apaisé.
Jean Monnet, négociant en cognac puis banquier, était un homme d'affaires reconnu. Durant le conflit mondial, il est chargé de l'approvisionnement du matériel de guerre pour les États-Unis. Il devient alors un fidèle conseiller du président Roosevelt. En 1943, diplomate apprécié, il devient membre du gouvernement français en exil à Alger. Et dès 1943, il exprime pour la première fois son idée d'une union de l'Europe. Il faudra encore attendre 9 ans. Jusqu'au 10 août 1952, la haute autorité de la CECA entre officiellement en fonction avec Jean Monnet à sa tête.
Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Jean Monnet, dont les activités de négoce l'emmenèrent partout dans le monde, et Robert Schuman étaient tous deux Européens convaincus. Robert Schuman, de père allemand et de mère luxembourgeoise, c'était un peu comme si l'Europe coulait dans ses veines. Julie Kiefer.
L'essentiel de sa famille paternelle réside en Moselle. À partir de la guerre de 1870, les Mosellans, tout comme les Alsaciens, ont eu deux possibilités. Quitter le territoire et rester français, ou rester en Alsace et en Moselle et devenir allemand. Le père de Robert Schuman, lui, a choisi de devenir allemand. Donc Robert Schuman, à sa naissance, est tout simplement né avec la nationalité allemande. Il est né au Luxembourg, sa mère étant luxembourgeoise, mais il avait un solide ancrage familial en Moselle. Donc déjà, il y a ces trois frontières qui sont présentes dès ses plus jeunes années. Il a eu l'abitur en 1904, et ensuite il a choisi immédiatement de se rendre dans des universités allemandes pour y étudier le droit et la philosophie. Il a vraiment une très bonne connaissance de la culture et de la langue allemande. C'est pour ça qu'il parvenait totalement à s'entretenir avec le chancelier Adenauer en allemand, et ça facilitait vraiment leur rapport.
En 1955, Robert Schuman se retire officiellement de la vie politique, mais il continuera jusqu'à la fin de sa vie à promouvoir l'œuvre européenne.
Il va être qualifié de pèlerin de l'Europe. Donc pour lui, il y avait une histoire partagée, il y avait des valeurs communes. Il était vraiment conscient de l'existence de ce patrimoine commun. Et contrairement à ce que beaucoup de ses détracteurs ont dit, Robert Schuman, son projet de CECA n'allait pas dans le sens d'un effacement des États au profit de l'Europe. Au contraire, pour lui, les nations étaient spécifiques, étaient historiques et devaient continuer à exister. Mais le projet européen allait leur permettre vraiment de s'unir, d'affronter des problèmes qui de toute façon dépassaient les frontières nationales, avec l'idée qu'ensemble ils seraient bien plus à même de trouver des solutions.
Une Europe riche de sa diversité, forte de son unité, c'était donc la vision de Robert Schuman. Dans son allocution de 1950, il déclarait d'ailleurs « Le plein épanouissement de l'humanité se fera au travers de la pluralité des civilisations qui seront poussées à se tourner les unes vers les autres. »
Les portraits de Robert Schuman et de Jean Monnet par Katia Beach, Vue d'Allemagne, c'est terminé pour aujourd'hui. Une émission à télécharger sur notre site internet dw.com/français, rubrique médiathèque. Et puis vous pouvez également réagir à ce que vous venez d'entendre en envoyant un mail à français@dw.com. Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine et tchuss.